Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Elles sont les premières touchées par ce que l'on appelle la rationalisation des cartes administratives, judiciaires et hospitalières. Et avec la disparition progressive de ces services, c'est le cœur d'une ville qui s'étiole avec ses commerces qui ferment et sa population qui va voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Un mouvement que pourrait peut-être contrarier l'exode des citadins poussés à la campagne par l'épidémie de coronavirus et le télétravail. On vous en parlait hier dans la story. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des enjeux clés pour les centres-villes, reconquérir les commerces.
Commerce à Cran, c'est fantastique. Pas besoin d'aller voir ailleurs. Suffit d'entrer dans les boutiques pour y trouver son petit bonheur.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos.
Le centre-ville est quelque chose de très important parce que c'est en premier un lieu de commerce, mais c'est aussi un lieu de vie, de convivialité et d'échange.
Ça crée un lien social indispensable qu'on ne retrouve pas en périphérie, ça c'est sûr.
Pour nous, vive le centre-ville.
Oui, le seul bémol que je mettrais, moi j'habite là-dessus, donc c'est pour se garer.
Pas évident pour moi de trouver un appartement puisque je cherche un grand appart.
Et il y a beaucoup de magasins qui ferment au centre-ville, ça c'est le problème.
Ils habitent tous des villes moyennes et ils étaient interrogés dans le cadre d'un programme commandé en 2019 par le ministère des Territoires et Collectivités. Les villes moyennes concentrent 23% de la population française et 26% des emplois. Elles sont les principales victimes de ce qu'on appelle la rétractation des centres, dont on vous a parlé dans la story. Le sujet est jugé suffisamment important pour que le gouvernement d'Édouard Philippe lance en 2018 le plan Action Cœur de Ville. Il est doté de 5 milliards d'euros sur 5 ans.
La ville de Fécamp a été retenue pour le plan Action Cœur de Ville. Seulement deux villes de Seine-Maritime ont été retenues parmi de nombreuses candidatures.
Fécamp fait donc partie des 222 communes françaises retenues pour lutter contre la dévitalisation des centres. J'ai demandé à Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, sa mère, ce qu'elle avait mis en place dans le cadre de ce programme Action Cœur de Ville.
Plusieurs choses. La première, nous avons investi pour la modernisation du centre-ville. On a fait des très très gros travaux de rénovation. Les premiers travaux avaient été faits il y a 40 ans, donc ça avait vraiment besoin d'un bon coup de modernisation. C'était un gros travail qui a été fait avec les commerçants, parce que quand vous faites des gros travaux en centre-ville, il faut une énorme concertation. Chaque semaine, on les voyait, on travaillait avec les entreprises, etc. Ça, c'est le travail, j'allais dire, de forme. Nous avons souhaité nous distinguer aussi par rapport à nos voisins, puisqu'on est dans un milieu concurrentiel, en faisant en sorte que le stationnement reste gratuit quand partout ailleurs, on fait en sorte que les centres-villes soient payants. Il nous paraissait inimaginable qu'on puisse se garer en périphérie gratuitement juste devant les hyper et que chez nous, en centre-ville, il faille payer. Donc ça, c'était aussi quelque chose sur lequel on insistait. Et puis un travail de fond à plusieurs niveaux sur l'habitat, parce qu'on s'est rendu compte aussi que ces 20 dernières années, eh bien, les centres-villes avaient été désertés par les habitants. Pour des raisons de facilité, les propriétaires louaient les ensembles d'immeubles. Auparavant, les commerçants vivaient à l'étage. Ils exerçaient au rez-de-chaussée et puis ils vivaient avec leur famille à l'étage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on s'est retrouvé avec des hauts d'immeubles qui servaient simplement de petites réserves. Donc, un gros travail est fait avec les propriétaires. On a un cabinet qui nous accompagne dans cette mission pour essayer de requalifier, de voir de quelle manière, par exemple, on peut, pourquoi pas, avoir des entrées ou des sorties qui soient distinctes et qui permettent de remettre des habitants dans les étages. Et puis, là aussi, ça a de la cohérence en termes de développement durable puisque, de façon certaine, nous savons qu'il faut éviter d'utiliser des mètres carrés de terres agricoles dont on n'aurait pas besoin. Et donc, un gros boulot sur les friches est fait actuellement parce qu'on avait beaucoup trop de bâtiments qui étaient fermés depuis des années et des années. On avait un ancien tribunal de commerce, par exemple, qui était fermé depuis au moins une quinzaine d'années sans aucune affectation. Moi, là, je suis ravie. J'ai un investisseur qui arrive et qui va faire 6 logements à l'intérieur. On est en plein cœur de ville. Vous voyez, donc c'est se réapproprier tous les lieux en se disant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut à nouveau y créer du logement? Ou si on ne peut pas, est-ce qu'on rase? On va avoir une école d'infirmières là, qui est en plein centre-ville que nous déménageons parce que le bâtiment est vraiment très ancien, ne correspond plus aux attentes. Eh bien, ce bâtiment, lui, est en béton, on ne pourra rien en faire. Il sera rasé et à la place, nous allons faire un parc pour que bah, les habitants puissent se l'approprier et avoir des lieux aussi de rencontre. Là-dessus, c'est un sujet aussi qui me tient très à cœur parce que, notamment quand on parle souvent des anciens dissoudrats, les jeunes aujourd'hui, ils ont peu d'endroits où se retrouver. Moi, je suis pas toute jeune, j'ai 50 ans. Quand j'étais ado, il y avait des cafés. On allait au café après le lycée, après je sais pas quand, enfin c'était assez facile. Aujourd'hui, eh ben, il y a beaucoup moins de cafés qu'avant. Et puis, quand vous n'avez pas d'argent, ben, vous n'avez pas au café. Et partout où les jeunes sont, en général, les gens se plaignent, ils font du bruit, ils mettent de la musique. Une espèce de manque de tolérance aussi par rapport aux uns et aux autres qui est criant. Donc, il faut bien qu'on ait des lieux aussi, à nous les élus en termes d'aménagement de nos espaces, eh bien, d'imaginer des lieux où les jeunes, moins jeunes, puisque l'idéal, c'est ça, c'est quand même que ces lieux soient intergénérationnels, mais où tout le monde puisse se retrouver, que ce ne soient pas des lieux non plus qui soient cachés. J'ai fait un premier équipement qui était assez symbolique, puisqu'il s'agit d'un skatepark. Je me suis un peu battue avec mes services, parce que moi, je souhaitais que ce soit en plein rond-point, entre la plage et la ville, et les services me disaient non, en gros, un skatepark, on ne met pas là. Là, c'est les investisseurs qui en voudraient. Il faudrait que vous mettiez là-bas, derrière le casino, genre un truc caché. Et moi, j'ai pu observer qu'en effet, un grand nombre de collègues avaient fait ça. Ils sont allés construire des skateparks, par exemple, un peu en périphérie de ville ou dans des endroits un peu délabrés, etc. Sauf qu'au bout de quelques semaines, il n'y a plus personne qui y va parce que les parents ne veulent pas que les enfants aillent là-bas. À partir du moment où c'est caché, ça devient régulièrement mal fréquenté et plus personne n'y va. Nous, c'est, je vous dis, en plein rond-point, c'est l'un des endroits les plus visibles et là-bas, ça ne vit pas. Si je vous invite à venir, je l'espère, à FECO, vous verrez, il y a des jeunes tout le temps. Et puis, il y a des parents qui sont là, qui s'assiedent sur les bancs, qui examinent. Et on se dit, bah, c'est des endroits comme ça qu'il nous faut.
Axe numéro 1, l'habitat. Le secteur de l'habitat occupe une place majeure dans le plan Action Cœur de Ville. Le plan prévoit des aides aux travaux de rénovation pour améliorer le logement. Créer, reconstruire et améliorer les performances énergétiques.
Fécamp, c'est une ville touristique, c'est un atout aussi pour les centres-villes. Mais est-ce que vous êtes également confronté à la fermeture des commerces, justement, dans le centre-ville, malgré cela?
Eh bien oui, parce que nous, le centre-ville n'est pas sur le port. Donc en fait, sur le plan d'urbanisme, ce que l'on doit essayer de faire, eh bien, c'est de faire en sorte que le centre-ville ne se déporte pas totalement sur le port. Et donc, voilà, on a certains outils, les petites pendants dont je vous parlais tout de suite, il n'aime cela. C'est-à-dire que quand on encourage à remonter vers le centre-ville, eh bien, c'est une passerelle que l'on peut créer entre le port aujourd'hui, lié, Fécamp est devenu une ville touristique. Le développement, il se fait presque tout seul. Là, évidemment, on a des circonstances un peu particulières cette année, mais autrement, ça se fait tout seul. Les magasins, quand ils ferment, il y en a aussitôt un autre qui ouvre, il n'y a pas de sujet. En centre-ville, c'est parfois plus compliqué. Alors, on a d'autres solutions. Quand vous parlez de solutions de fond, on a également des transformations qui doivent se faire. Auparavant, vous aviez 60 mètres carrés, ça suffisait. Aujourd'hui, les enseignes, ce qu'elles souhaitent, ce sont des magasins qui fassent au moins 150-200 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'elles veulent exposer leurs marchandises qui changent assez souvent, leurs collections, etc. Et nous, en centre-ville, on a peu ça. Ça veut dire qu'il faut être capable, parfois, de préempter, on va dire. Et puis, comme ça, vous pouvez, quand le voisin, peut-être, à un moment donné, va vendre ou même faire des échanges pour pouvoir répondre à la demande de ces fameux mètres carrés supplémentaires que vous n'avez pas parce que, eh bien, le commerce, lui aussi, évolue. Donc, nous devons aussi avoir ce type de réflexion. C'est pas simplement on va chercher des enseignes, parce que c'est aussi un nouveau métier. Les élus aujourd'hui, auparavant, mes prédécesseurs, ils attendaient qu'on vienne à eux, et les agences de développement économique, quand vous étiez bien avec elles, éventuellement vous envoyez des investisseurs. Aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Moi, j'organise des événements dans lesquels j'invite des investisseurs. Je leur fais visiter, mais je vous promets que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein. On a loué un minibus et moi, je me suis fait des tournées de la ville en montrant exactement tel projet, tel projet, tel projet. Voilà ce qu'on va faire, voilà notre bâtiment, voilà quelle est l'histoire de notre ville. En gros, aujourd'hui, moi, j'ai quand même l'impression d'être régulièrement à VRP, quoi.
J'en ai déjà parlé, l'une des conséquences de la pandémie de Covid-19 et du confinement pourrait bien être un mouvement long des Français vers la campagne, avec les enjeux que cela implique pour des communes qui n'y sont pas forcément préparées. C'est l'une des raisons qui a poussé le gouvernement à lancer en parallèle de l'opération Cœur de Ville un nouveau programme baptisé « Petite Ville de Demain » et qui sera doté de 3 milliards d'euros sur 6 ans. Il est à destination des communes de moins de 20 000 habitants. 1000 seront sélectionnés. Gageons que l'un des dossiers importants sera celui des commerces. Un rapport sur la revitalisation commerciale des centres-villes de 2016 pointait la mauvaise accessibilité du centre-ville aux consommateurs, la concurrence entre les boutiques et l'e-commerce, l'augmentation des loyers commerciaux et également le prix du foncier au mètre carré. La désertification des centres-villes est d'abord commerciale. En 15 ans, le taux de locaux commerciaux vides a augmenté de près de 5 points de pourcentage en moyenne en France, selon la fédération Procos. Il est passé de 7 à près de 12% et le taux dépasse les 10% dans 55% des villes moyennes. Il culmine même à plus de 20% dans des villes comme Béziers, Châtellerault, Forbach ou Annonay en Ardèche. Accusés, les énormes centres commerciaux construits en périphérie des grandes villes et qui drainent les populations à des dizaines de kilomètres à la ronde, à l'image de l'atoll près d'Angers, ouvert en 2012, sous le regard des caméras de France 3 Pays de Loire.
Le grand vaisseau s'est posé là où il n'y avait que des champs. Sur ses courbes, peu de repères, peu de marques. En ce jour d'ouverture, il a fait ami-ami avec les consommateurs du pays. Accès en voiture en passant sous les arches, parking arboré, navette électrique à disposition pour faire le tour du cercle et animation spéciale tout au long de la promenade menant à ses 50 magasins.
Un mois après son ouverture, l'atoll a vu passer plus d'un million de visiteurs et l'équivalent de la population du Maine-et-Loire et de la Mayenne réunie. Difficile de rivaliser. Mais les zones commerciales des villes moyennes sont aussi montrées du doigt et la Convention citoyenne pour le climat a voulu sonner la fin de la partie. Elle propose de prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines très consommatrice d'espace.
Alors, vous préconisez d'instaurer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Eh bien, allons-y, a dit hier Emmanuel Macron aux citoyens de la Convention citoyenne, qui souhaitent définir un nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés, réduisant par deux l'artificialisation des sols. C'est un peu compliqué parfois, même pour des citoyens.
On a entendu sur RMC Jean-Jacques Bourdin dans son imitation taquine du président. Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, vous êtes favorable, vous, au moratoire des nouvelles zones commerciales en périphérie ?
Ah bah totalement. Totalement. Alors ça, c'est la chance que nous avons en tant que ville retenue dans le dispositif Action Cœur de Ville, parce que la limite que je veux faire, pardon, vous m'en avez parlé tout à l'heure, c'est le manque de fonds directement pour les collectivités dans ce cadre-là. Moi, j'avoue que je suis un peu déçue. Les investisseurs peuvent bénéficier d'aides plus importantes, etc. Nous, c'est plus compliqué. Enfin, moi, j'avoue que j'espérais pour la rénovation de mon centre-ville de plus de fonds. Et j'espère, je ne désespère pas que peut-être dans le plan de relance, eh bien, il y aura une petite ligne aussi spécifique pour les actions cœur de ville. En revanche, quand vous êtes action cœur de ville, pour revenir à votre question du moratoire, en fait, c'était assez facile auparavant. Vous aviez une extension ou l'installation d'une zone commerciale. Et les élus se battaient en commission départementale quand ils avaient un peu de réseau. Bon, allez hop, c'était retoqué au niveau départemental. Par contre, au niveau national, ça passait obligatoirement. Moi, je l'ai vraiment vécu ici, il y a 2 ans, où le responsable d'une très grande ancienne est venu me voir en me disant, bah, écoutez, madame le maire, vous avez, enfin, en l'espèce, c'était en tant que présidente d'agglomération. Madame la présidente, c'est bien, vous avez gagné au niveau départemental. Par contre, je dois vous dire que, évidemment, je vais au national. On a réussi à alerter le ministère de l'économie et des finances en disant, attendez, on voit mettre des millions d'euros dans les centres-villes et vous allez autoriser au niveau national bien des extensions à des gros groupes. Aujourd'hui, et là, vraiment, on doit le reconnaître parce que ça s'est fait en quelques jours. Aujourd'hui, eh bien, on demande, lorsqu'il y a un examen en commission nationale, on demande l'avis du maire de la ville-centre et du préfet. Ça veut dire que notre avis compte. Si nous ne voulons pas, alors il faut l'assumer. Parce que c'est vrai qu'on vient toujours vous voir en vous disant « Ah bah oui, mais nous, on va créer 100 emplois. Hein. » D'abord, je ne sais pas à quoi ça correspond, parce que partout où ils viennent, ils vous disent « C'est 100 emplois. » Donc voilà, c'est 100 emplois, mais 100 emplois, combien vous allez en perdre en centre-ville à terme? Vous voyez, moi, c'est vraiment le calcul que j'ai fait. Alors, ça a été un peu compliqué avec mon voisin et ami de la commune qui voulait accueillir ces 5000 mètres carrés, mais le dialogue que j'ai eu et que j'ai souvent avec les maires voisins qui sont plus ruraux que nous, c'est de leur dire, vous savez, si nous aujourd'hui nous perdons des habitants, nous perdons des services publics, nous perdons nos commerces, vous perdrez vos habitants. Vos habitants en périphérie n'habitent là que parce que la ville centre est là et qu'ils peuvent y mettre leurs enfants au collège, au lycée, aller chez le médecin, aller à l'école de musique, aller à l'école d'art plastique, aller au ciné, enfin bref. C'est seulement ça. Le jour où tout ça est fermé, vous n'aurez plus aucun habitant, soyez-en bien conscient. Et ça, j'ai l'impression que c'est un discours qui commence à peser.
C'est aussi pour cette raison que vous êtes battu pour maintenir le cinéma en centre-ville. Ça, c'était un premier pas pour maintenir l'attractivité et le dynamisme du centre.
Bien sûr, et qu'on continue à se battre. Là, bon, encore une fois, les circonstances sont particulières, mais nous devons relancer la délégation de services publics et nous voulons le maintenir en centre-ville. C'est-à-dire qu'il y aura des investissements faits par la collectivité dans le cadre d'une DST, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, un privé, eh bien, s'il est en centre-ville, ça lui coûtera beaucoup plus cher. Donc, lui, la facilité pour lui, c'est d'aller, alors là, pour le coup, en zone périphérique, il crée son cinéma, il a 7 salles, ça lui coûte 3 millions d'euros, et son modèle économique, il l'a. Si moi, je lui dis, attendez, je souhaite que vous me repreniez cette friche-là parce que c'est hyper important et je veux absolument que vous restiez en ville parce qu'on va mutualiser les parkings, on va mutualiser le soir, il y aura les restos qui fonctionneront, etc. Alors qu'aujourd'hui, ils ne fonctionnent que le midi. Eh bien, il faut que j'accepte l'idée que ça va coûter un peu de sous à la collectivité parce qu'autrement, lui, son modèle économique, il ne l'aura pas.
Charlotte Ruggieri, je rappelle que vous êtes géographe, auteur de La France, géographie des territoires aux éditions Ellipse. Le moratoire, c'est une solution pour contrer la dévitalisation des commerces en centre-ville?
Oui, ça peut être une solution et c'est effectivement plutôt une solution intéressante. Pourquoi je pense que ça peut être une solution? Premièrement, parce qu'il y a des aides de l'État pour revitaliser les centres-villes et c'est bien que ces aides existent, qu'elles soient de l'État ou d'un autre acteur d'ailleurs, parce que ça permet de favoriser le retour, enfin la réhabilitation de logements, la réhabilitation par exemple d'espaces commerciaux, tout ça. Ça, c'est bien. Mais ça peut rester assez ponctuel et assez localisé, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une ou deux opérations, mais voilà. Mais si on en reste à ça, on ne s'attaque pas du coup aux facteurs et aux raisons en fait, de la concurrence commerciale. Et donc, si on ne fait rien, dans 5 ans, peut-être que ces commerces qui sont installés seront de nouveau confrontés à la même concurrence. Donc, s'attaquer aux facteurs de la concurrence et donc une partie des facteurs de la vacance, c'est une bonne chose. Le problème du moratoire, malgré tout, c'est qu'il arrive probablement un peu tardivement. D'abord, il y a des députés qui le demandent depuis très longtemps et en fait, là, il a été donc acté ce moratoire seulement en juillet dernier à l'issue de la Convention citoyenne. Donc, en soi, qu'il ait lieu, c'est une bonne chose, mais il arrive un petit peu après la bataille, c'est-à-dire une 30aine d'années après que ce phénomène a véritablement commencé. Donc, ce qu'il faudrait aussi, c'est quand même une réflexion sur la question du commerce en ligne, concrètement, notamment parce qu'aujourd'hui, si on regarde aussi l'extension des surfaces en fait, de commerce, que ce soit d'ailleurs en espace urbain, périurbain ou rural, on a aussi un développement très fort des centres logistiques liés à la vente par Internet. Amazon, par exemple, est en train de s'implanter très fortement en France. Ils ont déjà plus de 600 000 m² d'entrepôts en France. Et ils ont des projets de plusieurs milliers encore de mètres carrés d'ici 2-3 ans, en fait, pour implanter leur centre logistique, leur centre de distribution, tout ça. Donc, si on s'attaque que aux surfaces commerciales, sachant qu'actuellement, il y a aussi plein de surfaces commerciales et de centres commerciaux où les commerces ferment, parce que ce modèle est aussi en train de s'essouffler, ça ne suffira pas, en fait, parce que c'est un peu tard. Maintenant, je n'ai pas obligatoirement de solution sur le commerce en ligne, mais je pense qu'en tout cas, il faudrait penser les deux choses en même temps, surface commerciale en périphérie et commerce en ligne, en fait.
Il y a quelques jours, je suis tombé sur le film « Normandie nue » avec François Cluzet. L'histoire porte plus sur le malaise paysan, mais on y voit aussi François-Xavier Demaison en quête de sens. Il a quitté Paris avec femme et enfants pour vivre au grand air, mais il a développé une allergie à la campagne.
Les paysans, c'est la plaie de la nature, on devrait leur interdire de vivre à la campagne.
Je vous dis franchement, j'en ai assez de la Normandie.
Charlotte Ruggieri, c'est aussi un défi pour les villes moyennes de satisfaire cette nouvelle population exigeante en matière de commerce, de loisirs et de culture ?
Oui, complètement. Alors, ces mouvements de population, ils sont réels, de personnes effectivement qui quittent les espaces urbains, soit pour les espaces périurbains, soit pour les espaces ruraux, qui sont des espaces aujourd'hui qui sont en croissance démographique, donc qui gagnent de la population. Parfois, cette population, quand on est dans les espaces ruraux qu'on appelle les néo-ruraux, même si ça renvoie plutôt les néo-ruraux à une certaine idéologie assez propre aux années 70, aujourd'hui, on peut plus, de façon plus neutre parler de nouvelles populations, tout simplement. Mais en effet, en fait, il y a deux enjeux dans l'arrivée de ces nouvelles populations. Premièrement, effectivement, ce sont des populations qui vont arriver avec des pratiques et des usages urbains, en fait. Et donc, des habitudes urbaines. Et il va falloir à la fois de leur côté s'adapter, notamment à une proximité qui n'est plus la même, de services, de commerce, tout ça. Et effectivement, pour certaines communes, il y a de fait une recherche d'essayer d'offrir des activités, des services qui peuvent aussi plaire à cette nouvelle population qui, de fait, devient aussi des électeurs et des électrices derrière. L'autre élément qu'on voit de plus en plus, c'est quand même malgré tout une très importance des conflits entre ces nouvelles populations et les populations qui sont déjà présentes. Parce que souvent, quand ces populations vont s'installer dans les espaces ruraux, dans une moindre mesure dans les espaces périurbains, mais ça peut arriver aussi, il y a une forme d'idéalisation, en fait, et on le voit bien dans le film, d'ailleurs, puisque je l'ai vu aussi, d'idéalisation de ce que ça peut être la vie à la campagne, entre guillemets, notamment recherche de calme, recherche de grands espaces, ce qui, dans les faits, n'est pas toujours le cas, parce que il y a aussi une activité, notamment agricole, dans les espaces ruraux, et ça peut provoquer des conflits.
Une bonne bouille, de belles plumes, mais un défaut, selon des voisins, Maurice chante trop fort. Et voici début juin, sa propriétaire devant le tribunal pour trouble anormal de voisinage. Un couple de retraités qui possède juste à côté de son jardin une maison de vacances ne supporte plus les cocoricos matinaux de Maurice.
On a vu passer plusieurs anecdotes comme ça, récemment dans la presse, par exemple des chants de coqs qui gênaient des nouvelles personnes, le son des cloches des églises, par exemple, et plusieurs affaires sont allées aux tribunaux. Et il y a même donc un projet de loi qui a été déposé en janvier dernier d'un député, il me semble, de La République En Marche, j'ai plus son nom en tête, mais il faudrait regarder, pour protéger justement le patrimoine sensoriel des espaces ruraux, et enfin ce que lui il appelle les campagnes, mais plus généralement des espaces ruraux. Donc par exemple, tous ces bruits de l'espace rural qui ne devraient pas générer des conflits, tout simplement.
Maurice Lecoq est mort cet été, il a fini de chanter, mais sa propriétaire a heureusement ou malheureusement retrouvé Maurice II.
Après Rocky IV et Rambo III. Maintenant ça va chier.
Mais il va la fermer sa gueule !
Merci Charlotte Ruggieri, professeure de géographie, chercheuse associée à l'université Gustave Eiffel. Et merci Marie-Agnès Poussier-Winsbach, maire de Fécamp, pour cet aperçu du travail d'un maire en ville moyenne. Merci au Forum de l'économie positive pour la mise en contact. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
Hey there!
Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.